beaucoup d'autres cordes à son arc. Docteur Sebag, vous avez la parole.
Buenos días a todos. Good morning. Bonjour. Mr. Chairman, I will follow you in French. I will make my presentation in French. Monsieur Strauss, vous m'avez beaucoup aidé dans votre présentation. Ce que je vais essayer de faire, je n'ai aucune diapositive, c'est de réconcilier un petit peu tous les partenaires qui sont ici présents. Les industriels du médicament, les autorités gouvernementales, les ministères de la Santé et les industriels, bien sûr, que nous sommes, pour montrer qu'il n'y a pas de guerre à propos des brevets et qu'il faut essayer de relativiser les choses. Alors j'ai voulu commencer tout d'abord par un historique. Pourquoi un historique ? Parce que je pense que ce débat n'aurait pas pu avoir lieu il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et c'est le sida. C'est le sida qui a fait prendre conscience à un certain nombre de partenaires, à un certain nombre d'acteurs, de la réalité des problèmes de santé publique dans les pays du Sud. Rappelons-nous, fin des années 90, on découvre, ou certains découvrent, la pandémie de sida sur le continent africain. 35 millions de personnes séropositives. Les antirétroviraux existent uniquement dans le nord, pas dans le sud. Le traitement coûte 10 000 dollars par an dans les pays du nord, inaccessibilité totale pour les pays du sud. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en Afrique du Sud, et mon prédécesseur, M. Saïti, connaît bien le sujet, on décide de passer outre la propriété intellectuelle et donc de fabriquer des génériques de médicaments antirétroviraux qui étaient encore brevetés. Branle-bas de combat, et c'est un industriel qui vous en parle, 39 sociétés pharmaceutiques décident d'intenter un procès aux autorités sud-africaines pour outrepasser la propriété intellectuelle. On est dans un cas où on a juridiquement raison, puisqu'il existe des lois sur le respect des brevets, mais éthiquement, socialement, moralement, tort. Et là, campagne de presse internationale. Partout, journaux, télévisions, on montre ces méchants de l'industrie pharmaceutique qui ne veulent pas que les personnes séropositives du continent africain aient accès aux médicaments. Erreur manifeste, faute lourde. On a juridiquement raison, je vous l'ai dit, socialement tort, on n'intente pas un procès dans un pays où il y avait 6 millions de séropositifs. Le seul point positif, pardon de parler comme ça, c'est tout d'un coup la prise de conscience des industriels. Et il faut parfois savoir se battre la coulpe. C'est de dire, on ne peut pas aller contre l'opinion publique mondiale, on doit faire quelque chose, même si la responsabilité n'incombe pas uniquement aux industriels du médicament. Et donc les industriels prennent conscience qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, qu'il faut penser à un certain nombre de solutions. Et vous allez voir la cascade, prise de conscience des industriels, mais derrière les politiques suivent. Et au G8, en 2000 et en 2001, on décide la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Pour la première fois, les politiques des pays les plus riches s'intéressent à la santé publique dans les pays du Sud et décident d'allouer des sommes importantes, vous l'avez dit, Monsieur Strauss, à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et là-dessus, les lois internationales commencent à agir. C'est les accords triples, les accords de Doha. Et puis des nouveaux acteurs apparaissent. Vous l'avez dit, la Fondation Gates, la Fondation Clinton, le PMI, President Malaria Initiative aux États-Unis sur le paludisme, PEPFAR, programme sur le sida, qui a été augmenté récemment avec le discours de M. Obama au Ghana. Donc apparition des nouveaux acteurs. Et le panorama est en train de changer. Pour ces maladies, pour les pays du Sud, on dit la situation est intolérable, on doit faire quelque chose. Alors l'industrie pharmaceutique. Alors Madame Chan a l'habitude de répéter, l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas un problème, mais ça peut être une solution. Et je crois que c'est une solution. Mais cette industrie, elle a une image, vous la connaissez, qui n'est pas très bonne. Et j'ai souvent l'habitude de dire que cette industrie souffre de ce qu'on appelle son péché originel. C'est de faire du profit sur la vie, sur la mort, sur la douleur. Autant on accepte le profit, Microsoft, bravo, c'est très bien, ils ont gagné beaucoup d'argent, l'industrie automobile, non, mais la santé, on ne doit pas gagner d'argent. Mais la santé, ça a un coût. Et c'est vrai que cette industrie, elle souffre de ce péché originel. Alors, il faut parler aussi innovation. Vous savez, récemment, en France, il y a eu un débat sur Internet et sur la piraterie des œuvres d'art, des chanteurs, des films, en disant qu'il ne faut pas porter atteinte à la création. Je vous pose la question, est-ce qu'un médicament, ce n'est pas aussi une création ? Peut-être pas artistique, bien quand on a vu les photos de M. Wood sur les molécules, il y a un petit peu de couleur, ça peut paraître ressemblant à un tableau. C'est aussi une création, et toute création doit aussi être respectée. Mais cette innovation, elle est importante. Si on prend le paludisme, parce qu'on a parlé du sida tout à l'heure, on a besoin de nouveaux médicaments. Ce qui marche aujourd'hui, les dérivés d'artémisinine associés à d'autres molécules, on sait qu'il y aura des résistances, qu'il s'agit d'une véritable course-poursuite entre le parasite et les nouvelles entités chimiques, qu'il faut en permanence avoir de nouveaux médicaments, parce qu'en 2012-2013, ce qui est actif aujourd'hui résistera. Il nous faut des nouveaux médicaments sur la maladie du sommeil. Il nous faut des nouveaux médicaments sur la tuberculose, sur les formes de... Et ça, c'est de l'innovation. Alors, on reviendra sur la notion de brevet. Alors, je vais dire quand même un petit mot. Vous avez parlé de Roche, vous avez parlé de Boehringer Ingelheim, de Novartis. Mais qu'est-ce qu'a fait Sanofi Aventis ? Ben, Sanofi Aventis a d'abord dit une chose, et qui me paraissait importante, à laquelle j'ai adhéré, c'était de dire le don de médicaments, peut être utile en cas d'urgence, tremblement de terre, tsunami. Mais le don de médicaments n'est pas une réponse au problème chronique de l'accès aux médicaments. Le problème de l'accès aux médicaments, c'est un problème de modèle économique. C'est modifier le modèle économique. Et je vais même aller plus loin, c'est que l'industrie pharmaceutique dans son ensemble, aujourd'hui, doit changer de modèle économique. Une personne de Malaisie, tout à l'heure, a parlé de la productivité de la recherche et du développement. C'est vrai qu'il y a une diminution de productivité et qu'il faut trouver ces nouveaux modèles. Et les modèles de croissance de l'industrie, ils se situeront dans le sud. Et il faut penser dès aujourd'hui à modifier la notion de très gros profit dans les pays riches à une notion de moindre profit avec une augmentation de volume parce que les besoins, ils sont aussi dans les pays du sud. Donc, chez Sanofi Aventis, on a créé un département, partir de rien, ex nihilo, qui s'appelle département d'accès aux médicaments et qui s'occupe de 7 domaines particuliers, le paludisme, la malaria, la maladie du sommeil, les leishmanioses, et puis des maladies chroniques, parce que dans le sud, il n'y a pas que des maladies transmissibles. L'épilepsie et les maladies mentales. Les maladies mentales, personne ne s'y intéresse. Et c'est des maladies extrêmement stigmatisantes, avec les mêmes taux qu'on trouve dans les pays du Nord. Et puis, bien sûr, les vaccins, puisqu'on est un des premiers producteurs mondiaux de vaccins. Et le but, si vous voulez, et je vous en donne un exemple, c'est de modifier le modèle économique avec des partenariats. Alors, on a des partenariats avec la Fondation Gates, mais je vais vous parler d'un partenariat avec une organisation qui s'appelle DNDi, Drug for Neglected Disease Initiative, où on a développé ensemble une combinaison fixe d'artésunate, d'amodiaquine contre le paludisme. Alors, DNDi, ce n'est pas des amis de l'industrie pharmaceutique, mais ils avaient une solution et ils avaient besoin d'un partenaire industriel. Et eux avaient une solution et nous avons besoin de cette solution. Et on a décidé de se marier. Alors, je dis souvent, ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de raison, mais souvent, les mariages de raison tiennent beaucoup mieux que les mariages d'amour. Mais ça, c'est une expérience personnelle. Non, trêve de plaisanterie. Ce qui a été important dans le partenariat avec DNDi, c'est les trois points. Le premier point, c'était de dire, on va développer ensemble ce médicament. Il est fait, il est développé, il est préqualifié par l'OMS, il est sur le terrain dans les pays d'endémie. Le deuxième point, c'était de dire ce médicament, combinaison fixe, doit coûter moins de 1 dollar les 3 jours de traitement chez l'adulte et moins de 50 cents chez l'enfant. C'est fait. Et le troisième point, c'était pas de propriété intellectuelle. Oh, l'industrie pharmaceutique, pas de patente. Non. Pour les produits contre le paludisme et pour ce médicament, on a décidé de ne pas prendre de propriété intellectuelle, comme d'ailleurs sur d'autres médicaments contre la tuberculose. Pour vous dire que les choses ne sont pas rigides. Il n'y a pas de règles particulières. Et puis vous l'avez dit, quand on voit la liste des médicaments essentiels, c'est vrai que 98% des médicaments essentiels ne sont pas brevetés. Donc la problématique n'est pas simplement une problématique de brevet. Et je voudrais terminer en partageant avec vous un exemple. Et là, c'est le médecin qui va parler. Il ne faudrait pas que le débat sur les brevets masque la complexité des problèmes de santé publique dans les pays du Sud. Je suis attaché des hôpitaux de Paris et j'ai toujours gardé une activité clinique. Et j'ai longtemps travaillé en Afrique, j'ai été directeur des opérations de la Croix-Rouge, donc je connais le terrain. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur le continent africain, si nous avions tous les médicaments antirétroviraux, première génération, deuxième génération, on ne réglerait pas pour autant le problème du sida en Afrique. Le médicament est une partie de la solution. Et je vais vous donner un exemple, peut-être caricatural, pour vous faire toucher du doigt cette complexité. Prenez la transmission maternelle infantile. Tous les ans, naissent 600 000 enfants séropositifs par transmission de la mère à l'enfant. Il y a plusieurs médicaments, dont un que vous avez cité, la névirapine, la viramune, qui donnée à la mère au moment de l'accouchement réduit nettement la transmission materno-fœtale. C'est un médicament qui n'est pas cher, qui peut être donné, mais on se dit très bien, on va donner un comprimé de névirapine à la mère au moment de l'accouchement. Seulement en Afrique, on n'accouche pas dans des cliniques, on n'accouche pas dans des hôpitaux. On accouche chez soi, dans sa communauté, dans son village. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de donner le médicament, il faut expliquer à la mère. Il faut lui dire, madame, quand vous aurez mal au moment de l'accouchement, prenez le comprimé qu'on vous a laissé. Ça veut dire aussi qu'on doit lui laisser le comprimé et qu'elle ne le perde pas, qu'elle le prenne bien. Donc déjà, vous voyez, première difficulté, éducation, information, communication avec la mère. Le médicament est une petite partie. Deuxième difficulté, la mère, elle, est séropositive. Ça veut dire que si cette mère n'entre pas dans un programme de soins, à terme, elle peut mourir. Donc, on aura évité la transmission à un enfant qui risque de se retrouver orphelin. Ça veut dire qu'il faut inclure la mère dans un programme de soins. Et vous savez que le traitement du sida, ce n'est pas 3 jours, comme le paludisme. Ce n'est pas 6 mois, comme la tuberculose. C'est à vie. Ça veut dire qu'il faut être sûr que la mère, non seulement il y aura une fourniture de médicaments, qu'elle prenne ses médicaments tous les jours. Qu'on ait les infrastructures biologiques pour contrôler tous les 3 mois la charge virale de la mère. Le taux de lymphocyte T4, parce qu'on a des risques de résistance de virus mutants. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça demande des infirmières, ça demande des agents de santé, ça demande des biologistes, ça demande des tests de laboratoire. Donc, deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, qui en est une aussi. Vous savez que le virus passe dans le lait maternel. Qu'on a préconisé, et a raison, depuis des années, l'allaitement maternel. Donc pendant quelque temps, avant de négativer la maman, il va falloir lui dire, il ne faut pas allaiter votre enfant. Il faut utiliser du lait en poudre avec toutes les mesures d'eau bouillie. Ensuite, la mère qui n'allaite pas son enfant dans un village, elle est montrée du doigt. Elle peut être stigmatisée. Ah, elle n'allaite pas son enfant, elle est séropositive. Donc voyez, sur un exemple peut-être caricatural, combien c'est complexe. Et le problème, ce n'est pas le brevet de la névirapine. Le problème, c'est l'information, c'est l'éducation, c'est le transfert de connaissances aux infirmières, aux infirmiers, aux agents de santé, aux médecins localement. Et quand on voit le problème aujourd'hui du brain drain, toutes les personnes, les infirmières formées en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi, c'est des exemples que je connais bien, ou au Mozambique, qui partent travailler en Angleterre ou ailleurs. Il y a une fuite des cerveaux du Sud vers le Nord. C'est un problème, ça aussi. On a formé des gens qui viennent chez nous, parce que nous, on a un problème d'infirmiers et de médecins aussi. Donc, j'ai voulu vous dire à travers cet exemple combien, certes, il y a peut-être une problématique brevet, mais il ne faut pas avoir une stratégie de conflit, il faut avoir une stratégie de négociation, une stratégie de partenariat. Et je suis optimiste parce que les choses changent, parce qu'on se parle aujourd'hui. Donc voilà, mesdames, messieurs, chers amis, ce que je voulais partager avec vous, et je vous remercie beaucoup de votre attention.